D'accord, on peut s'asseoir. On peut tourner dans 1 Samuel, chapitre 17. L'éducation a été sur nos pensées, dans nos pensées, puisque plusieurs de nous ont été bénis avec une éducation unique et différente, puisqu'on a approché la vie d'une perspective transcendale. C'est comme je vais le dessiner. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plutôt nouveaux ici, mais on parle souvent que l'univers, c'est comme une maison avec 2 étages. Le premier étage, c'est où est-ce que la plupart des gens vivent, comme ici. Donc, dans le temps, dans la raison, dans l'espace, dans les phénomènes naturels. Mais l'univers est plus que ce qu'on voit. Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. La vérité absolue, c'est notre référence. C'est ce qui est au deuxième étage. Et quand Jésus a dit que personne n'a monté. Donc ici, on a Jésus dans la maison entière. Il a vécu dans le monde naturel et plus loin, puisqu'il a toujours fait ce qu'il a vu faire par son Père. Il était un avec le Père. Il a mené Dieu dans notre monde. Où est-ce qu'on peut le toucher? Où est-ce qu'on peut le voir, lui croire? Et son éducation dans Luc 4, 42, où a-t-il appris ces choses? Non, il ne parle pas comme les scribes et les pharisiens. Il parle avec du pouvoir. Dans Jean 7, regardons où a-t-il appris ces choses? Qui était son professeur, son rabbi? Où a-t-il appris ces choses? Même quand il avait 12 ans dans le temple, il demandait des questions, il parlait et ils étaient émerveillés, puisque son monde était plus qu'un monde de religion, de lois, de règles, mais il avait le cœur de Dieu, l'Esprit de Dieu. Notre éducation est différente. Je vais vous lire une citation. On peut voir que les chrétiens qui ont fait le plus pour le monde présent, c'était les gens qui pensaient du prochain monde, de la prochaine vie. C'est lorsque les chrétiens qu'ils ont commencé d'arrêter de penser à l'autre monde qu'ils sont devenus ineffectifs dans ce monde. Donc, nous allons retourner à notre histoire de Goliath. Nous pouvons devenir comme ces gens ici, les gens communs qui attendent sur la colline. Ce sont des gens qui ont peur de Goliath. Ce sont des gens qui sont. On peut devenir comme eux si on arrête de penser plus loin dans la réalité de Dieu. La peur de Dieu, c'est le début de cette compréhension. Et la Bible devient un livre qui est en vie. Je lisais dans quelque chose par Winston Churchill et il y a quelques phrases qu'on peut entendre. Un aspect de la vie moderne, c'est l'élimination de l'individuel. C'est en 1901 qu'il a dit ceci. Il a dit que l'argent, le capitalisme, les groupes, il y a des groupes qui essaient d'éliminer, d'effacer l'individuel. Je ne parle pas des politiques, mais j'essaie d'utiliser cette phrase pour nous provoquer dans la pensée. Ils ont dit que nous vivons dans un âge de grands événements et petits hommes. Il y a des grands événements. Okay? Il y a Goliath qui fait face aux petits hommes sur la colline. C'est comme une pensée de groupe. Ils pensent en groupe. Et ils disent, ça ne peut pas se passer. Goliath est un monstre. Lisons le texte dans le chapitre 17, verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès-Damim. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Et nous étions là, quand on était en Israël, on a eu une dévotion là-bas. Et on pouvait voir... on pouvait voir Jérusalem, Bethléem. Et maintenant, on planifie se joindre en Israël. Et en octobre, vous pouvez vous joindre à ce groupe si vous voulez vous joindre. On a de la place pour 48 personnes totales. Et on planifie à le faire. Dans le verset 3, les Philistins étaient debout sur une montagne. Il y avait une vallée entre eux. Il y avait un champ. OK. Les Philistins étaient... OK. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une tête de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles. Il était un grand homme, il avait une armure de 125 livres. Dans le verset 6, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une lance coupe de tisserand et la lance pesait 600 sicles de fer. Donc, c'était un grand homme, très beaucoup de pouvoir, très capable. Qu'est-ce qu'il représente pour nous aujourd'hui? Est-ce que ça représente la grande technologie, les réseaux sociaux, l'argent, le gouvernement, le pouvoir, les médias, la propagande? Il a beaucoup de pouvoir, il a toujours été... J'ai vécu dans un pays communiste. J'ai vécu environ 20 ans en Europe. Je connais un peu à propos du sujet. J'ai été à l'Union soviétique. J'ai été arrêtée par les soviétiques à Noël 1986. J'ai été sur un bateau. Pas comme un prisonnier, mais j'étais j'étais comme arrêtée parce que j'ai mené des bibles dans l'Union soviétique. J'ai été dans des musées de l'Holocauste. J'ai été à Budapest assis dans une maison juive couverte de d'arbres. Une plaque écrite que c'était une maison qui appartenait à un juif. Mais elle était toute comme remplie de toutes d'arbres. Donc j'ai imaginé les nazis qui ont pris sa famille, ses deux petites filles. Ils sont partis à un camp et il n'est jamais retourné. 600 000 juifs de l'Hongrie, ils étaient amenés, ils ont été pris et menés J'ai vu vraiment le pire de l'histoire. Je l'ai peut-être pas vécu moi-même, mais j'en ai vu. Et qui est ce Goliath? Qui est ce Goliath aujourd'hui et qui êtes-vous? Et je vous dis ceci pour vous encourager. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes des gens qui sont équipés, qui sont capables, puisque notre maison n'est pas seulement ici, sur le premier étage, mais nous croyons et nous connectons à un autre monde. Nous sommes des gens de la foi et ceci est important. Nous vivons dans des temps où est-ce que les choses vont changer radicalement. Et Goliath nous moque, il nous dit, vous n'avez personne, puisque votre éducation n'inclut pas Dieu. Nous avons une société sophistiquée avec des experts, mais vous avez tous peur. Vous ne l'avez pas. Une autre chose que Churchill a dit dans ce discours, il a dit, nous vivons dans un âge de grands événements et petits hommes, et nous ne pouvons pas devenir des esclaves de notre propre système ou penser d'une façon oppressée en faisant partie du mécanisme que nous avons créé nous-mêmes. Ça sera seulement par les efforts braves de l'originalité, d'une considération des résultats de la soutenance des pensées, du soutien des pensées. Donc, je vais redire ça de ma façon. J'adore ce qu'il veut dire. Je vais le dire de ma façon, dans ce contexte. David, dans l'histoire, doit utiliser ces mots. Une pensée soutenue et qui ne chavire pas. Il n'est pas soumis à l'oppression de ce grand système qui est capable de nous écraser, de nous moquer. Goliath s'en fout de vous. Il s'en fout de toi, il s'en fout de l'individuel. Goliath pense à son arrogance, son pouvoir, son avantage. Et il est capable de nous évincer, de nous moquer, de nous ridiculer, de nous mettre en notre place. Vous, les chrétiens, revenez dans votre grotte. Vous, les chrétiens, vous êtes des gens avec une petite pensée, vous êtes non intéressants. Et vous savez quoi? Adolf Hitler moquait les chrétiens. Il disait, je peux les regarder jusqu'à temps qu'ils deviennent nerveux et qu'ils suent. Je n'ai pas sa citation exacte, mais c'est un intimidateur arrogant. Il était démoniaque. Il pouvait moquer et ridiculer les gens. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et ceci est Goliath. N'importe quel format en lequel ça vient, c'est dans le monde. Qui es-tu? C'est une bonne question. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? J'ai presque fini. C'est le message. Et j'ai trois choses à propos de ceci. Donc, allons au verset. Donc, dans le verset 8. Donc, 1 Samuel 17, verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille et leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Bon. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Pourquoi ils avaient peur? Puisqu'ils n'étaient pas communs. Ils étaient remplis de l'esprit. Ils ne faisaient pas seulement partie du groupe, mais ils étaient un individuel. Et dans les années 70, quand je suis devenu un croyant, et nous étions comme des individuels, comme des hippies, nous avons aimé notre individualité. En tant qu'Américains, nous avons aimé cet esprit de cowboy, que vous êtes seul, que vous êtes vous créez vous-même en tant qu'individuel, mais nous avons bougé de ceci. C'est comme une communauté, le langage populaire, on se conforme. Mais j'aimerais nous provoquer en l'individualité aujourd'hui. J'aimerais que vous pensiez entre vous-même et Dieu. Vous et Dieu et votre marche avec Dieu. Vous êtes un individuel. Vous êtes un individuel. Norman Rockwell, je voulais mettre une peinture par ce peintre. Et cette idée de l'individualité et en tant qu'être un individu, pensez à ceci. Il n'y a personne qui marche dans vos souliers autre que vous. Il n'y a personne qui est vous, sauf vous, ou votre ADN, votre marque sur votre doigt. Mais en tant que, d'une façon spirituelle, Jean n'était pas Matthieu, ni Luc, ni Marc, et Paul n'était pas Pierre. Tous sont différents. Et au ciel, c'est ça donc. Vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez faire partie de ce groupe ou de cette catégorie. Mais si vous ne faites pas partie, on vous cancelle. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah oui, vraiment? Je ne peux pas faire ça? À cause du deuxième étage dans la maison, je ne peux pas faire autre chose qu'être qu'un individu. J'aime où est-ce que je suis. J'aime où est-ce que je suis trouvé en Jésus-Christ. Et j'aime ceci. Nous apprenons par la foi. Lorsque Dieu dit, est-ce que ces os peuvent vivre? On ne répond pas en tant que l'hôpital John Hopkins. Mais comment répondons-nous? Nous avons une autre éducation et on dit, attendez une seconde, y a-t-il un deuxième étage à la maison? Dieu est-il dans la maison? Est-ce que Dieu est dans la maison? Est-ce que dans mon éducation séculaire, il n'y a pas de Dieu? Il y a un étage, la science, l'analyse, la personnalité, la préférence, les opinions, les paroles, il y a beaucoup d'informations. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Est-ce que ces choses peuvent vivre? Oh Dieu, tu le sais. Est-ce que si ces os peuvent vivre et la chair peuvent couvrir ces os, tu sais? Est-ce que tu peux marcher sur l'eau? Non, oui. Est-ce qu'on peut nourrir 5000? Est-ce qu'il y a une individualité avec Dieu? Oui, j'ai trois choses à partager. On doit avoir une nouvelle pensée qui fait partie de ce livre. Réveille-moi par cette parole. On doit avoir une pensée renouvelée. Une parole vivante. Une méditation constante sur l'écriture, la nuit et le jour. Il n'y a rien de mieux que d'être assis le soir et je lis comme 10 livres et je compare et je peux être là pendant 4 heures sans problème. J'aime chaque minute de ce temps. Oui, il y a des temps où est-ce que j'ai des distractions ou je dis ceci pour nous encourager à avoir une vie personnelle. Peut-être 5 minutes le matin, peut-être une chanson en nous rendant à l'église ou au travail. Peut-être c'est seulement une attitude de marcher dans le jardin et avoir l'écriture, la parole, une méditation qui vient de ce genre d'éducation du deuxième étage. Jésus a dit, je viens d'en haut et vous venez du sol. Pourquoi vous ne comprenez pas ce que je dis? Puisque vous n'avez pas ma parole en vous, en Jean 8. Vous devez être né de nouveau. Vous ne pouvez pas entrer le royaume. Nicodémus, tu ne peux pas entrer. Tu as un haut statut. Mais tu ne connais pas à propos d'être né de nouveau. Comment peux-tu être un professeur à propos de Dieu et ne pas connaître ceci? Et cette parole peut être utilisée dans l'église chrétienne où est-ce que les gens ne connaissent pas l'évangile à propos de la nouvelle naissance, à propos du salut, à propos de la foi, à propos de Dieu, notre Père, les doctrines, le sang qui a été versé pour nous. Deuxièmement, à propos de David, l'humilité. Peut-être qu'une des choses spirituelles dans notre vie spirituelle qui est la plus importante, c'est l'humilité. L'humilité. Il y a un chrétien qui a dit à pasteur Matty, qui l'a conseillé. Le croyant a dit, je comprends que je dois être humble. Je suis humble, mais personne ne le remarque. Personne remarque que je suis humble. Je vais être humble si les gens peuvent le remarquer. Bon. Nous n'avons pas cette humilité sauf en Christ. À cause de Christ, nous sommes humbles. Nous avons un nouveau cœur, on a une relation. Saviez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fini par aimer Dieu. Il nous a aimés et maintenant nous l'aimons. Et on commence à aimer les gens de Dieu, à s'aimer l'un l'autre. Et dans cet amour, il y a une humilité qu'on peut remarquer entre nous-mêmes. Il n'y a pas d'intérêt pour soi, mais c'est vraiment un vrai amour. En étant ensemble, ce n'est pas compliqué. Ça n'a pas rapport à nous-mêmes. C'est de l'amour qui est hors de soi. C'est ce que David avait. Il a vécu dedans. Il y avait un temps lorsque David, en tant que berger, il regardait les moutons et il y avait un lion et un ours. Et j'ai été dit par pasteur Ben en Israël, il a dit que lorsqu'il a tué le lion et l'ours, c'est écrit en hébreu que ça a été passé en même temps. Premièrement le lion et ensuite l'ours. C'était comme un événement. Il a tué deux animaux sauvages et féroces, mais il a été capable de les tuer en même temps. Et je crois que l'éducation qui est nécessaire dans notre monde moderne, ça l'a de cette nature, c'est tellement en besoin. que l'intimidateur lequel auquel on fait face ne peut pas être comme tué par une personne quelqu'un en fait qui est stupide en fait. Je ne sais pas comment dire ce mot, juste une seconde. Ils n'ont pas un message comme un trompeur ou comme un idiot peut-être. Bon, ces gens, ils n'ont pas le discernement. Il y avait un sens, il y avait un courage, il y avait un amour dans notre cœur qui nous disait, voici la façon qui est. Et cet homme, ce grand géant, ce grand moqueur, il n'est pas en charge. C'est Dieu qui est en charge. Et comment tu t'es rendu là-bas? Non, mais ce n'est pas une manière de un événement là. C'est chacun de vous ont un temps, un rendez-vous. Et c'est un dimanche matin normal dans lequel qu'on se prépare d'une autre façon d'éducation. C'est une éducation où est-ce qu'on apprend la parole de Dieu, le cœur de Dieu. Et on dit à ces choses, les natifs, Bon Over, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait que le nazisme, c'est du racisme, c'est de l'haine, c'est du meurtre. Et dans le musée de l'Holocauste à Washington, il y a des présentations, des exhibitions. C'était écrit. Les SS qui étaient en charge d'exterminer les gens juifs. Bon, les deux tiers, c'était des gens qui ont gradué, qui ont fini le collège. Donc, ces officiers étaient des gens qui étaient éduqués. Et puis, vous pouvez être un meurtrier éduqué, un raciste. Vous pouvez être comme... Vous ne voyez pas, ça peut être quelqu'un d'arrogant qui pense qu'ils sont en charge. Ah, le narcissisme est en pouvoir, nous sommes en contrôle. Mais est-ce que vous voulez faire partie de ceci? Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe autour de moi. Je ne veux pas faire partie. Je veux faire partie de la vérité. Dans l'esprit. En l'amour. Je m'en fous de Goliath. Ce n'est pas le point. Ce n'est pas le but. OK, si il est là, donc il peut faire ce qu'il fait. Mais nous sommes ici. Et moi, je ne commence pas d'être un héros. Ça n'a pas rapport d'être un héros. C'est beaucoup plus creux. Si on vivait dans une île déserte, comment est-ce qu'on vivrait sur l'île déserte? À la fin de notre vie, comment est-ce qu'on pense? Comment est-ce qu'on vit? Il n'y a pas... c'est pas un concours. Comment est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on pense? Et la troisième chose que j'ai à dire à propos de l'éducation, c'est que tu es un individuel, mais c'est aussi corporel. Donc, c'est comme connecté au professeur. Donc, dans le verset 20, c'est lié au corps de Christ. Il y a plusieurs exemples à travers l'histoire que nous sommes liés par la grande assemblée qui est au ciel et aussi sur la terre. Nous sommes liés à l'histoire qui est tellement fière en Dieu. Et je finis en disant ceci. L'Empire romain, au premier siècle, les premiers 15 Césars, les 14 entre eux, étaient des homosexuels. Des homosexuels. L'homosexualité n'était pas non commune au premier siècle. Mais j'aimerais vous demander cette question. Où est-ce qu'elle est allée? Comment est-ce que ça a été, comment est-ce que ça a été disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la chrétienté a grandi? Pourquoi est-ce que la chrétienté a pris l'Empire romain? Et si on pense aux dieux des Romains, c'était des dieux païens. Bon, il y avait plusieurs dieux et déesses. OK, où sont ces dieux? Le chrétien... OK, les chrétiens du temps là d'avant ont dit qu'ils vont appeler, que nous allons appeler nos fils Paul et Pierre. Donc, on va appeler les gens et nos petits chiens par des noms bibliques. Qui ont gagné? César ou Christ? Donc, quand David entre... Quand il entre, il enlève le menaceur. David se fout du menaceur, mais il est préoccupé par Dieu. Parce que longtemps avant qu'il a été, il a été dans l'église, dans l'esprit. Il avait tué un lion et un ours et personne ne le savait. Personne ne le savait, mais l'esprit de Dieu a été mis sur lui. Et il connaissait qui était Dieu. Et il a marché avec Dieu. Il a aimé Dieu. Et cet amour pour Dieu, c'était sa nourriture, c'était son identité, c'était sa fraternité. Et dans l'histoire, c'est écrit que quand Saul a dit « Je peux le faire », Saul a dit « Prends mon armure ». Et David l'a essayé et il a dit « Ah, ça ne me fait pas. Je m'en fous de cette armure. Je ne vais même pas l'utiliser. Je ne suis pas là. Je suis plus haut. Je ne pense pas comme toi. Tu peux penser comme ceci, mais moi, je ne pense pas de cette façon. J'en ai pas besoin. J'ai quelque chose de plus qui se passe dans ma vie. Et c'est ce qu'on a besoin. Il y aura un temps lorsque notre monde va... Il va collapser, il va se briser. Nos mondes, nos vies. Donc, vous allez être fâchés avec moi que je fais ceci. Ce monde, l'armure de Saul et mon monde. Oui, ça a rapport à ceci, mais c'est corrompu, c'est fini, c'est cassé. Mais j'ai besoin de quelque chose de plus. J'ai besoin de Jésus. Je suis dans une prison, mais je ne sais pas comment je me suis rendue ici. J'ai besoin de Jésus. Mon éducation au collège public a pu se casser, mais j'ai besoin de Jésus. Mon église a brisé. Mon pasteur m'a brisé. Mais j'ai besoin de Jésus. Mais qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes au deuxième étage? Est-ce que ce deuxième étage va partir de vous? Est-ce que le Dieu vivant va arrêter de vous parler? Est-ce qu'il va vous quitter? Est-ce qu'il va nous décevoir? Non! Est-ce que notre Dieu est fidèle? Oui! Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pour ceci que David, c'est écrit dans l'Écriture que notre référence, Jésus est notre référence. David est notre référence. Car il a fait des erreurs, il a commis de l'adultère, il a tué quelqu'un. Mais lorsque son monde a chaviré, il connaissait qui était le Seigneur. Est-ce que c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Nous avons besoin d'une éducation il va avoir des intimidateurs dans notre vie, mais on dit nous ne sommes pas dans le groupe commun. Lorsqu'il pense d'une façon, je pense d'une autre façon. Je ne suis pas comme Goliath. Lui, il est en charge, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de pouvoir, il a tout pour lui-même, il a la plateforme des réseaux sociaux, mais je m'en fous. Puisque j'ai le Dieu vivant qui me donne de la paix un vendredi soir, un mardi matin, il nous donne des paroles de foi, une fraternité d'amour qui a changé notre vie. Amen. Le Seigneur entend vos prières ce matin. Si vous voulez être sérieux avec Dieu, vous pouvez lui dire. Il vous entend. Et vous pouvez dire, Seigneur, en ce temps, je veux être sérieux avec toi. Aide-moi à comprendre plus, à apprendre plus, à être équipé. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer dans notre futur. Mais ceux qui connaissent leur Dieu peuvent faire des grands exploits. Et nous ne connaissons pas exactement le temps dans lequel on vit. Mais ça a l'air quand même difficile. Mais on a besoin de toi. Si tu n'as pas commencé ta vie chrétienne, commence là aujourd'hui en disant, Jésus, je te fais confiance. Guide-moi, je te fais confiance. Il nous pardonne. Il nous aime. Il vit en nous. Il va nous montrer. Il va te montrer que tu es correct en lui. Tu es correct. Tu es plus que correct. Tu es accepté par Dieu. Oui, toi. Oui, tous. Tous qui ont cru en lui. Et dites, Jésus, je te fais confiance. Amen.